Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Cécile Aubron, qui est PUPH de réanimation et qui travaille dans le service de médecine intensive réanimation au CHU de Brest. Cécile Aubron a particulièrement travaillé sur la transfusion globulaire du patient de réanimation et c'est sur ce thème-là que nous avons souhaité l'inviter. Bonjour Cécile Aubron.
Bonjour Damien, merci à la commission jeune de la SRLF pour cette invitation.
Et donc tout de suite, la première question, quelles sont les indications transfusionnelles en réanimation ?
Merci pour cette question. Il y a deux cas de figure à distinguer en termes d'indication transfusionnelle en réanimation. Le premier cas de figure est celui du patient en choc hémorragique. Donc définitivement, les déterminants transfusionnels vont être les paramètres hémodynamiques. Et il faudra aussi tenir compte du temps au traitement du saignement, c'est-à-dire du temps à la chirurgie ou du temps à la radiologie interventionnelle. Le deuxième cas de figure est celui des patients hémodynamiquement stables qui ont un saignement peu abondant ou pas de saignement. Et dans ce cas de figure, il est assez difficile de déterminer exactement quand on doit transfuser ou pas ces patients. En effet, les indications transfusionnelles ne peuvent pas se résumer uniquement au taux d'hémoglobine, même si les recommandations actuelles tentent de recommander la transfusion en fonction du taux d'hémoglobine. Et effectivement, c'est un bon outil et c'est le déterminant transfusionnel majeur, mais la tolérance à l'anémie varie selon les comorbidités du patient, selon ses traitements, par exemple un traitement par bêta-bloquant ou pas, et les besoins en transport d'oxygène varient aussi selon la pathologie en cause et notamment les altérations de la microcirculation ou la présence ou pas d'un traumatisme crânien, par exemple, pour citer des exemples pour lesquels il y a encore des controverses en termes de seuil transfusionnel, si on doit conserver ce terme de seuil transfusionnel. Alors si on doit donner quand même des pistes pour savoir quand ou pas transfuser un patient de réanimation, l'étude phare publiée par Paul Hébert en 1999, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, qui a bouleversé nos pratiques transfusionnelles, puisque avant cette étude, on transfusait les patients pour les maintenir au-dessus de 10 grammes d'hémoglobine et on transfusait au moins deux concentrés globulaires, c'était deux concentrés globulaires ou rien. Après cette étude qui a montré donc pas de différence de mortalité entre deux groupes transfusés, soit selon une stratégie transfusionnelle restrictive pour maintenir un taux d'hémoglobine entre 7 et 9 grammes par décilitre, soit une stratégie transfusionnelle libérale pour maintenir un taux d'hémoglobine entre 10 et 12 grammes. Donc après cette étude, donc il n'a pas montré de différence de mortalité entre les deux groupes. Les pratiques transfusionnelles ont été complètement modifiées. Il faut préciser que cette étude n'incluait que des patients euvolémiques sans saignement actif et sans cardiopathie ischémique décompensée. En conséquent, ces pratiques transfusionnelles restrictives ne peuvent pas s'appliquer à des patients qui sont soit hypovolémiques, soit souffrant d'une cardiopathie ischémique décompensée. Par ailleurs, clairement, cette étude ne s'intéresse pas à certains groupes qui ont des spécificités, comme je l'ai dit auparavant, en termes de tolérance à l'anémie. Notamment, il n'y avait pas de patients d'oncohématologie, il n'y avait pas de patients traumatisés crâniens, il n'y avait pas de patients de périopératoire. Enfin, les stratégies transfusionnelles optimales ont essayé d'être définies dans ces groupes de patients par différentes études, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, il est possible que les études qui se basent uniquement sur le taux d'hémoglobine ne permettent pas de répondre à la question, puisque une seule pathologie ne permet pas de définir la tolérance à l'anémie. Le message que je voudrais faire passer est clairement de ne pas retenir l'hémoglobine comme seul déterminant transfusionnel et d'essayer de tenir compte d'une multitude de facteurs que sont à la fois donc les facteurs propres au patient et propres à sa pathologie.
Merci beaucoup. Et y a-t-il un intérêt lorsqu'on souhaite transfuser un patient à privilégier un culoglobulaire frais ?
Merci pour cette question. Effectivement, il y a beaucoup de littérature qui s'intéresse au sujet. Il n'y a actuellement pas de preuves suffisantes pour privilégier la transfusion de culoglobulaire frais. Alors, il est intéressant de savoir qu'au cours de la période de conservation des concentrés de globules rouges, qui est de 42 jours en France, les hématies vont subir des modifications morphologiques, fonctionnelles et structurelles qui pourraient altérer leur capacité à délivrer de l'oxygène aux tissus et aux cellules. Cependant, il y a un certain nombre d'études observationnelles qui ont rapporté des effets délétères de concentrés de globules rouges conservés pour une période prolongée. Mais toutes les études randomisées n'ont actuellement pas montré de différence en termes de mortalité ni de morbidité chez les patients transfusés en réanimation recevant des concentrés de globules rouges, des concentrés globulaires frais en comparaison avec des concentrés de globulaires plus âgés. Alors cependant, il y a actuellement une seule étude réalisée chez les patients de réanimation en dehors donc du périopératoire, qui est l'étude canadienne ABLE, qui a été publiée il y a maintenant 2 ans par l'équipe de Jacques Lacroix. Cette étude, qui inclut un peu plus de 2400 patients, donc ne montrait pas de différence de mortalité ni de morbidité. Il y a une étude actuellement en cours, une étude australienne, qui est l'étude Transfuse, qui vient de se finir et dont on devrait avoir les résultats dans quelques mois, qui a un design un peu différent de l'étude ABLE, puisqu'elle randomise donc des patients recevant soit le concentré de globulaire compatible le plus vieux, ce qu'on fait actuellement, soit le concentré globulaire compatible le plus jeune. Ce design a l'avantage d'être pragmatique et si cette étude montrait une différence, un tel design pourrait être appliqué de façon assez simple dans nos pratiques cliniques. Mais attention, actuellement, il n'y a aucune étude. Les 4 grands essais randomisés disponibles, que ce soit en néonatologie, chez les patients de réanimation, en post-chir cardiaque ou chez les patients tout venant hospitalisés, aucun de ces 4 essais randomisés n'a montré de différence entre les deux groupes.
D'accord. Et quelles sont les complications transfusionnelles qui risquent d'arriver chez un patient lorsqu'on décide de le transfuser, manifestement, soit avec un culot frais ou un culot ancien? Quels sont ces risques?
Il est important de connaître les complications transfusionnelles. Elles peuvent être classées en 4 catégories. Les premières sont les complications transfusionnelles dites immunologiques, qui sont donc des complications de sévérité très variable, qui peuvent aller donc de l'incompatibilité transfusionnelle à la réaction anaphylactique et dans lesquelles vont être classées le TRALI, donc transfusion related acute lung injury. Donc ce sont des complications pour certaines qui sont évitables et pour d'autres moins. Deuxième catégorie de complications, ce sont les complications dites de surcharge. Et en tête de liste, c'est l'œdème aigu pulmonaire post-transfusionnel ou TACO, l'acronyme pour Transfusion Associated Circulatory Overload. C'est une complication qui survient chez environ 6% de nos patients en réanimation et qui est probablement sous-diagnostiquée. Troisième type de complications, ce sont les complications infectieuses avec différents mécanismes de transmission de pathogènes. Il y a les complications relativement rares qui sont les infections bactériennes liées à la transfusion par contamination de la poche de sang, les complications virales qui tendent à diminuer mais qui restent un risque important, notamment lors des épidémies de virus tels que Zika virus, et des complications infectieuses qui sont moins connues, qui sont une augmentation du risque infectieux post-transfusionnel, une augmentation du risque d'infection nosocomiale qui ont été décrites chez les patients de réanimation. Donc ce sont des associations entre transfusion de concentré de globules rouges et risque infectieux à distance. Et ce risque infectieux serait secondaire à ce qu'on appelle le TRIM, la Transfusion Related Immunomodulation, c'est-à-dire des modifications des réponses immunitaires et avec une augmentation de la susceptibilité aux infections nosocomiales. Enfin, la quatrième catégorie, c'est des complications métaboliques qui sont assez bien connues, mais qu'il faut, je pense, rappeler, notamment au cours des transfusions massives. La transfusion est responsable donc d'hypocalcémie et d'hypothermie. Ces complications peuvent participer à la persistance d'une coagulopathie s'il y en a une.
Merci pour ces précisions. Mais alors, peut-on actuellement garantir la sécurité transfusionnelle en France ?
Donc les produits sanguins labiles comme les autres thérapeutiques ne sont pas dénués de risque et le risque zéro n'existe pas. Cependant, il faut être conscient que l'anémie est associée à un mauvais pronostic, à une augmentation de la mortalité chez certains patients pour certains degrés d'anémie, mais aussi à une diminution de la qualité de vie lorsque les patients sortent anémiés. Le plus difficile est probablement de définir les meilleures indications transfusionnelles pour optimiser la balance bénéfice-risque de la transfusion sanguine. Il ne faut pas ne pas transfuser un patient qui a besoin de concentrer de globules rouges uniquement sur la base des complications de la transfusion. Et à l'inverse, il ne faut pas transfuser un patient qui n'a pas besoin de concentrer de globules rouges parce que ces thérapeutiques ont leurs complications et leurs risques.
Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions. Peux-tu, s'il te plaît, nous indiquer les trois papiers qui te semblent essentiels à avoir lus sur cette thématique ?
Donc le premier papier est l'étude phare que j'ai citée, qui est l'étude publiée par Paul Ebert dans le New England Journal of Medicine en 1999, qui est l'étude TRIC. Deuxième papier, c'est l'étude canadienne EBOL, qui a comparé la transfusion de concentrés de globules rouges jeunes et âgés, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2015. Et le troisième papier, qui n'est pas une étude, mais qui sont les recommandations de l'HAS, que je recommande fortement de lire, qui ont été mises à jour en 2015, donc qui sont relativement récentes, recommandations de l'HAS sur les bonnes pratiques transfusionnelles des concentrés de globules rouges.
Eh bien, merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations et on termine toujours par notre question bonus. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui a envie de choisir cette filière MIR pour le conforter dans ce choix d'une si belle spécialité ?
Donc moi, je lui réponds qu'il faut faire MIR. Je peux faire allusion à une discussion que j'ai eue avec des externes dernièrement qui sont venus me voir et qui m'ont fait part de certaines de leurs questions, notamment sur le fait qu'ils ne pourraient peut-être pas changer de métier. Pour ma part, j'ai toujours voulu faire de la réanimation et j'ai jamais voulu changer de métier à partir du moment où ça nous plaît. C'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense qu'il y a différentes structures dans lesquelles on peut exercer notre métier. Et ceci va être encore plus vrai à l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans une réanimation de 30 lits avec des urgences qui ne cessent d'accepter des patients et de vous appeler la nuit. Et puis, il y a des structures, des USC notamment, où on peut avoir un travail peut-être plus posé au cours des 24 heures. En termes de polyvalence, il me semble qu'il n'y ait pas de spécialité actuellement qui offre une telle polyvalence. Et même si la spécialité MIR ne va plus être un DESC, donc on n'aura plus effectivement des médecins qui viendront d'horizons différents, elle offre encore une formation, enfin la possibilité au cours de notre, enfin de la formation des étudiants, de pouvoir s'orienter vers une thématique ou une spécialité ou une formation technique médicale qui, je l'espère, permettra de perpétuer la polyvalence de notre spécialité.